Je termine ces considérations un peu annexes et j'en viens à la carrière de Patrick Modiano. Il est né, vous disais-je, en 1945. Ses parents, alors, habitaient, le lieu va revenir souvent dans ses romans, 15 quai Conti. C'est sur les bords de la Seine, entre l'hôtel des Monnaies, d'une part, et l'Institut, d'autre part. On a la vue sur le square du Vergalan, en face la Samaritaine et à gauche le Louvre. C'est une vue somptueuse, mais orientée au nord. Oui. Bon. Les Modiano occupaient à la fin de l'occupation cet appartement, qui en réalité était un triplex. Hein, il y avait, je sais pas, au troisième ou au quatrième étage, quelques pièces, au-dessus de trois pièces, et sans doute une chambre de bonne, mais des escaliers intérieurs, permettant de communiquer. Donc il logeait des amis. Et je vous disais, la fois passée, que les parents Modiano, après-guerre, ont logé de drôles de gens. Interdit de séjour à Paris, sortant de prison, interdit de séjour à Paris, que néanmoins les Modiano, qui les connaissaient bien, et pourquoi, bon, logés. Notamment le grand blond à la Jaguar, Jean Lenormand, qui est un braqueur de banque, qui a fait pas mal de tôles et qui va faire parler de lui au moment de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barka, cet homme politique marocain assassiné par la police secrète marocaine de connivence avec des polices secrètes françaises à Paris. On n'a jamais retrouvé le corps. Vrai sujet de roman policier. C'était du temps du général de Gaulle qui avait, paraît-il, piqué une épouvantable colère de voir que de tels actes étaient possibles sur le territoire français, avec la collaboration ou le silence complice de services policiers français ou parapoliciers. Alors cet appartement du 15 quai Conti, où Modiano, enfant, a été élevé, avec à partir de 1947 son petit frère, Rudy, qui meurt d'une leucémie en 1950, cela, n'est-ce pas, dans la plus totale indifférence de ses parents, et le père a annoncé cela de façon brutale à son fils, a tu sais à propos, Rudy est mort. Rudy est mort hier. Bon, c'est dur d'apprendre la mort d'un petit frère que l'on aime beaucoup de telle manière. Cet appartement, au début de l'occupation, avait été occupé par un écrivain dont Modiano parle abondamment, forcément, Maurice Sachs. C'est un personnage de roman. Il a conduit sa vie très très mal comme un personnage noir de roman. C'était, comme son nom l'indique, un juif parfaitement dévoyé, homosexuel, voleur, receleur, trafiquant de bijoux, proxénète, qui mène une vie agitée avant-guerre dans les milieux que Jean Cocteau faisait tourbillonner. Cocteau s'est pris d'amitié pour lui, Cocteau est radigué. Maurice Sachs, avant-guerre, a subi ce qui semble être une conversion religieuse et s'est jeté sous la direction du philosophe catholique Jacques Maritain, le néotomiste Jacques Maritain. On l'a baptisé, et Maurice Sachs a dit à son parrain, Jacques Maritain, parrain et marraine, hein, Jacques et Raïssa Maritain, il leur a dit qu'il éprouvait une vocation monastique. Il est allé faire un noviciat je ne sais où, et il a été très vite chassé pour homosexualité. Il est retombé dans la haute pègre parisienne, et est arrivé la guerre, en 39-40. Et, quoique juif, il s'est jeté dans la collaboration, récupérant auprès de ce n'était plus ses coreligionnaires, mais enfin, auprès de juifs arrêtés par la police française ou par la Gestapo, récupérant ce qu'il pouvait de bijoux, les vendants, etc., les vendants, trafiquants de toutes sortes. Également, il trafiquait beaucoup de stupéfiants avec la connivence de l'occupant allemand. Donc il pénétrait, vous voyez, les milieux de la haute, les voyous dorés de la collaboration. Les Allemands quittent Paris, Alors, il était devenu un agent de l'Abwehr, la police politique de renseignement. Et donc, il dénonçait ce qu'il pouvait trouver de résistant. Il part dans les fourgons de l'Allemagne et il finira probablement suite à des vols et à des actions ou des manœuvres ou des propositions homosexuelles, il finira dans une prison à Hambourg sous les bombardements alliés à l'extrême fin de la guerre et il sera abattu en pleine campagne par des SS excédés de traîner avec eux des prisonniers. C'est une destinée affreuse. Modiano se demande si ses parents ne le connaissaient pas. Juif collabo, comme était le père de Modiano, lui-même. Pourquoi habitait-il l'appartement qu'avait occupé Maurice Saxe? Et dans cet appartement, Maurice Saxe, qui avant-guerre, protégé par Gallimard, avait publié plusieurs livres, des tableaux de mœurs sur les cabarets, les dancings, les boîtes de nuit du Paris des années 1930, le Paris des années folles. Les titres reviennent souvent chez Modiano. Vous avez un livre qui s'appelle, fort bien écrit, acide comme tout, qui s'appelle Le Sabbat. Un autre livre s'appelle La chasse à cour. Et Modiano évoque assez souvent ces deux livres. Et l'appartement du 15 Quai Conti était bourré des livres de Maurice Saxe. Il avait laissé, n'est-ce pas, les invendus, etc. D'où les suspicions de Patrick sur la possible relation de son père ou de sa mère et de Maurice Saxe. Enfant, on le met à l'école rue de Lodi, dans l'île Saint-Louis. Il s'y fait quelques amis, mais ses parents ne s'intéressent pas du tout à lui, ni plus tard à son petit frère. Donc une idée, c'est s'en débarrasser. Et puis l'argent manque. D'où des factures impayées, donc on vit avec des bougies, puisque l'électricité n'a plus été payée et est coupée. Bon, il n'y a plus de téléphone. Payait-il le loyer? Je n'en sais trop rien. Tout cela, n'est-ce pas, évoque une enfance presque misérable. Les parents se débarrassent de leur fils en les mettant... Alors, lui, elle est à l'école primaire, et son petit frère avait 3 ou 4 ans. Ils les ont confiés à une femme assez étrange, à jouer en Josas, pendant une année entière. Cette femme assez étrange, maintenant les spécialistes de Modiano ont fait le travail, c'était une ancienne prostituée qui avait travaillé pour la Gestapo pendant l'occupation, qui avait fait un peu de prison, qui était morphinomane, qui avait fait une cure de désintoxication et qui jouait à jouer en Josas, recevait alors des lesbiennes tenant des cabarets lesbiens à Paris, d'une part, était-elle passée, n'est-ce pas, d'amour hétéro à des amours homo, je n'en sais rien, et elle recevait surtout des malfrats, si bien que, rentrant de l'école, Patrick et Rudy, à la fin d'un printemps, ont trouvé la maison entièrement vide, plus personne. Donc ils se sont tournés vers les voisins. Les voisins ont attendu, personne. Donc ils étaient abandonnés. Tout le monde avait décampé, puisqu'ils avaient eu vent d'une perquisition de police. Pour des affaires de cambriolage, avait-on dit à Patrick à l'époque. Mais en réalité, c'était pour des affaires beaucoup plus graves, de trafic de stupéfiants, avec des gens qui sont à l'origine de ce qu'on appelait la French Connection. Donc c'est l'exportation de la drogue produite en Asie mineure et arrivant via le Liban sur Marseille ou Barcelone qu'on réexpédie aux États-Unis. Ça l'affaire. Finalement, le père Modiano est venu récupérer ses enfants. Rudy meurt de leucémie. Lui est toujours élevé par n'importe qui, n'importe comment. En classe, il est distrait. Il est seul, avec une tendance à la dépression. les parents vont le mettre pensionnaire dans une maison d'éducation, le collège Moncel, à Jouy-en-Josas, toujours, maison qui n'existe plus. C'était un pensionnat pour de malheureux enfants, alors bâtards de grandes familles riches, enfants de diplomates, enfants abandonnés. On les laissait moisir, ils passaient tout l'été, n'est-ce pas, sans voir personne, sans recevoir de courrier, simplement l'argent était régulièrement livré à la direction. La discipline était stricte, on faisait beaucoup de sport. Modiano a gardé peu d'amis de ce temps-là, c'était des voyous dorés le plus souvent, hein. Si tout sortait du collège, ils ont touché les héritages qu'ils ont dépensés sottement. Mais de ce séjour dans ce pensionnat, il a tiré un remarquable livre qui s'appelle « De six braves garçons ». Donc c'est l'histoire transposée, hein, de ce séjour dans ce collège, le collège de Moncel, avec des descriptions très précises de Jouy-en-Josas, la Bièvre qui passe. Vous voyez où se trouve Jouy-en-Josas ? À l'ouest de Paris. C'est le site actuel de HEC, Hautes Études Commerciales. Jouy-en-Josas apparaît dans l'histoire au XVIIIe siècle, puisque c'est là où s'est fixé cet Alsacien génial qui a fabriqué la toile de Jouy, Oberkampf, une station de métro Oberkampf. Bon, c'est un industriel qui est protégé par Louis XV, puis par Louis XVI, le génie, n'est-ce pas, de fabriquer, voyez ce que c'est que la toile de Jouy. Avec ses très jolis motifs, ses petits bergers, ses petites bergères, ses moutons, des scènes galantes, des arbres mélancoliques. Bon. Donc, dans ce roman, il évoque, le Jouy-en-Josas, les vieilles maisons, l'église, le temple réformé, la statue de Oberkampf, la gare, le pont métallique et bruyant quand on passe dessus, et l'auberge qui existe toujours, Robin des Bois. Alors, pour la petite histoire, si vous êtes lecteur, lectrice de bande dessinée, si vous avez réussi à vaincre la mauvaise volonté de vos parents et à lire quand même des bandes dessinées, il y a une série qui paraissait dans Tintin. L'auteur se nomme Edgar Pierre Jacobs. C'est la série des Black et Mortimer. Oui, vous connaissez. Un des albums s'intitule « SOS Météore ». Et là, vous avez des épisodes se déroulant à Jouy-en-Josas. Et un personnage de « SOS Météore » habite la maison même où, chez Simone Boucrot, avait été petit pensionnaire Patrick Modiano et son frère Rudy. Donc cette maison, vous pouvez la voir. Le personnage s'appelle le professeur Labrousse. Et Edgar Pierre Jacobs a dessiné cela bien avant, n'est-ce pas, que Modiano n'eût fait paraître le moindre roman. C'est une coïncidence très, très étonnante. Aujourd'hui, Modiano s'est logé rue Bonaparte dans une maison qu'habita Robespierre. Rue Bonaparte, c'est entre la rue de Vaugirard et la place Saint-Sulpice, vous voyez. Et au coin, il sort de chez lui, il part à gauche. C'est à côté de l'Institut culturel hongrois. Vous partez à gauche vers la place Saint-Sulpice. Il y a une petite rue qui s'appelle la rue Honoré-Chevalier. Et dans SOS Météore d'Edgar Pierre Jacobs, le méchant personnage d'Ulrich réussit à sauter d'un bloc d'immeuble à un autre au-dessus de la rue Honoré-Chevalier. Donc les destins de Modiano et d'Edgar Pierre Jacobs étaient liés par je ne sais quelle providence veillant sur la littérature. Modiano, en savait-il quelque chose? Non, il n'en savait rien lors de son enfance. Enfin, il a dû lire Edgar Pierre Jacobs et s'étonner, n'est-ce pas, qu'un album évoque, sans le vouloir, les lieux, et les dessine, les lieux de son enfance.